Frères et sœurs bien-aimés, en cette solennité de l'Épiphanie, vient de nous être annoncée la joie de la résurrection, car celui que ces rois venus de bien loin, ces rois venus de peuples étrangers qui ne sont pas habités par la foi d'Israël, se sont sentis concernés et de toutes les nations sont venus adorer le Seigneur, le roi des rois. L'ensemble des fêtes vient de nous être annoncé, l'entraînement du carême, la joie de Pâques, l'ascension du Seigneur, mais également la fête Dieu où nous déambulerons dans la ville de Luce en compagnie du Seigneur présent au Saint-Sacrement de l'autel jusqu'à entrer une nouvelle fois dans le temps de l'Avent où nous attendons le retour du Christ dans la gloire. Toutes ces fêtes mobiles dépendent du jour où est fêtée l'Épiphanie. L'Épiphanie, le mot signifie la manifestation. Voilà que notre Seigneur Jésus le Christ n'est plus seulement confessé comme le Sauveur d'Israël. Les premiers à avoir été conviés par les anges à la crèche de Bethléem sont les bergers. Eux appartiennent à la foi d'Israël. Ils sont les plus pauvres. Ils sont également ceux dont l'âme est le plus ouvert à la contemplation de la création de Dieu. Ils attendent l'espérance d'Israël que vienne le Messie. Et voilà que, à la nativité, l'ange est venu leur dire que l'enfant emmailloté, ne pouvant bouger, déjà l'enfant mystérieusement cloué sur le bois de la croix, était le Messie envoyé par Dieu, mais qu'il était Dieu lui-même. Et à l'annonce de l'ange, nous nous souvenons que le cœur angélique s'est fait entendre « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». La bonne volonté est figurée par la pauvreté, par l'humilité de ces bergers qui attendaient que Dieu envoie le Sauveur. Ils parlent, les bergers, le langage de la foi et de la foi d'Israël. En revanche, les mages, venant d'Orient, sont étrangers aux promesses de l'ancienne alliance. Ils sont étrangers à la foi d'Israël. Pourtant, ils se sont sentis concernés, car dans leur science, dans leur sagesse, et nous pensons à l'importance que revêtait pour nos premières civilisations que l'astronomie, la science, le mouvement des étoiles. C'était l'objet de leur temple, c'était l'objet également de leur quête pour pouvoir savoir comment le temps passe. Ils scrutaient les mystères du ciel. Mais voilà qu'une étrange étoile s'est levée à l'Orient. Pas simplement une étoile filante, comme ils en avaient déjà vu. Une étoile qui s'est levée. Une étoile dont ils sentent qu'ils sont concernés, parce qu'ils ne parlent pas le langage de la foi. Un ange ne se présente pas à eux pour leur parler, pour leur donner quelque indication. Le bon Dieu les prend comme ils sont, avec leur science, avec leurs étoiles. Eh bien, voilà que cette étoile se lève en Orient. Et voilà qu'ils se mettent à la recherche du roi des Juifs. Bien étrange, voir une étoile se lever et penser qu'il s'agit du roi des Juifs. En effet, l'étoile est au royaume d'Israël ce que la fleur de lys est à la terre de France. Encore de nos jours, l'étoile représentant la souveraineté d'Israël est représentée sur leur drapeau blanc et bleu. L'étoile de David, l'étoile du roi David, est le signe de la monarchie d'Israël, de sa souveraineté. Quand les rois étrangers voient qu'il s'agit d'une étoile mobile, une étoile dont ils sentent qu'ils sont appelés, voilà pourquoi ils disent et bien que cette étoile annonce la venue du roi des Juifs. Et eux qui sont étrangers à la loi juive, à la foi juive, eux qui ne parlent pas le langage de la foi, sont conviés à venir contempler. Et la mère, la bienheureuse Vierge Marie, leur présentant son enfant, notre Seigneur Jésus le Christ. Au jour de l'Épiphanie, Dieu est donc manifesté, non pas seulement comme au jour de la Nativité, comme le Dieu Messie, le Sauveur d'un peuple, celui d'Israël. Au jour de l'Épiphanie, voilà que l'ensemble du genre humain reconnaît qu'il n'y a pas d'autre Sauveur que notre Seigneur Jésus le Christ. Le Sauveur sera les bras grands ouverts sur le bois de la croix, défiguré par la souffrance. Le bon Dieu n'a pas voulu commencer par la rédemption. Il a voulu commencer à se présenter sous les traits pacifiques de cet enfant qui vient de naître. Celui qui nous dira « Venez à moi car je suis doux et humble de cœur » et celui qui nous invite chacun, où que nous soyons dans la création, qui nous invite à parler le langage de la foi, qui nous permet d'ouvrir notre âme à l'espérance de la vie éternelle, car le bon Dieu, notre unique Créateur, n'a pas seulement façonné cette terre et l'ensemble de l'univers, simplement pour un temps. Le Seigneur est venu manifester dans sa création de quel amour nous sommes aimés et nous faire comme toucher du doigt que si le bon Dieu a fait tout cela par amour pour nous, grand sera alors la vie éternelle en paradis. Tout ce qui est ici-bas est éphémère. Il y a la succession des saisons, il y a la succession des espèces, il y a, eh bien, notre vie, il y a le mystère de notre mort, ceux de tous nos aïeux dans la foi. Nous sommes ce peuple immense qui avons vu son étoile se lever. Nous sommes membres de ce peuple immense du genre humain qui tient sa vie de Dieu. Nous venons de Dieu, nous retournons à Dieu et avec les marges, eh bien, nous sommes venus en ce jour adorer le Seigneur. La solennité de l'Épiphanie nous dit donc cette grande universalité du royaume de Dieu, cette grande universalité de ce Dieu qui se révèle. Le bon Dieu se révèle ici-bas sur la terre pour nous conduire, nous, peuple de la terre, jusqu'à la grandeur du ciel. Et c'est la Vierge Marie qui nous présente cet enfant. Les mages sont venus offrir trois présents qui nous disent déjà le mystère de cette foi qu'ils vont finir par tenir du bout des lèvres au plus profond de leur âme. L'or, symbole de la richesse, est tout autant celui de la royauté, puisque sur chaque pièce d'or était marquée l'effigie du souverain. Ils viennent offrir cet or, manifestant que le Seigneur, eh bien, est le roi des rois. Ils viennent offrir l'encens. Voilà un cadeau bien singulier, car l'encens ne s'offre qu'à Dieu. Voilà que les mages viennent reconnaître en offrant l'or que cet enfant est le roi des rois, en offrant l'encens qu'il est Dieu lui-même qui vient de s'incarner, de se faire homme. Et le grand mystère de la rédemption est manifesté avec la myrrhe. La myrrhe n'est pas un parfum parmi tant d'autres. La myrrhe est ce parfum précieux avec laquelle nous rencontrerons Marie-Madeleine au matin de Pâques. La myrrhe sert, eh bien, à rendre l'hommage lorsque le corps de notre défunt n'abrite plus son âme, n'abrite plus la vie. Voilà que la myrrhe nous dit déjà que ce Dieu, roi des rois et seigneur des seigneurs, va offrir sa vie. C'est déjà l'image de sa résurrection. Avec la tradition médiévale et en raison de ces trois cadeaux, il y a placé à la crèche trois mages. Trois mages représentant chacun le monde connu au Moyen-Âge. Un représentant le grand continent africain. Un représentant le grand continent moyen-oriental, mais également asiatique. Et un, notre vieille Europe. C'est donc l'image que tous sont concernés, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur race, quelle que soit leur vie, tous nous sommes concernés par ce grand Dieu qui est venu à notre secours. Nous plaçons en lui notre foi, notre espérance et notre charité. Nous l'adorons avec la simplicité et la pauvreté des bergers. Nous l'adorons par notre intelligence, par la science des mages et avec eux, nous n'avons de cesse que de lui offrir. Eh bien, toute notre vie, nous offrons notre cœur au bon Dieu. Cette crèche où il vient faire sa demeure, nous l'accueillons, nous l'adorons. Et comme l'affirmait saint Jean au jour de la Nativité dans son prologue, « Grâce après grâce, nous avons tout reçu de lui ». Je vous souhaite donc, en ce jour de l'Épiphanie, une sainte année de grâce 2024, où nous aurons à suivre le Seigneur pour de cette terre, pouvoir toucher déjà du doigt la vie éternelle du ciel qui nous est promise. Ainsi soit-il.